Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques petites minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dimanche dernier, nous nous sommes rendus dans la Nièvre, très précisément à Saint-André-en-Morvan, où se tenait le traditionnel salon du livre de ce charmant petit village. Et nous y avons fait de belles rencontres que nous allons aujourd'hui partager avec vous. Vous y entendrez et découvrirez un certain nombre d'auteurs. Nous n'avons bien évidemment pas pu donner la parole à tous les auteurs présents, mais vous découvrirez notamment Aude Béliveau, auteure et éditrice pour un ouvrage historique, politique et militant qui retrace les luttes des femmes et des hommes noirs à travers le monde et l'histoire. Il s'agit de Dignité Noire et c'est aux éditions Touche d'encre. Nous vous transporterons aussi dans l'Antiquité romaine avec deux professeur du Collège des Chaumes d'Avallon, qui signe une bande dessinée dont les deux premiers tomes sont disponibles. On attend le troisième pour former la trilogie en 2020. Cette bande dessinée a pour titre Windicta et nous aurons l'occasion d'en demander un peu plus à leurs deux auteurs, Jean-Charles Gibault et Ilker Caliscan. Nous ouvrons cette émission avec un sujet grave. Il s'agit du drame des victimes de l'amiante. En effet, Virginie Dupérou signe un témoignage touchant et offensif, « Amiante et mensonge, notre perpétuité » disponible aux éditions Vérone. Virginie Dupérou a perdu en 2015 son père emporté par le cancer dû à l'amiante. L'amiante que son père a respiré toute sa jeunesse, passée à proximité d'une usine d'amiante en région parisienne, très précisément à Aulnay-sous-Bois. Et elle raconte son calvaire, dans ce livre témoignage, rencontre avec l'auteur, c'était dimanche dernier dans la Nièvre, au Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan.
Je suis Virginie Dupérou, j'habite près de Nevers, à Urzy, dans la Nièvre, et je suis là aujourd'hui à Saint-André-en-Morvan pour présenter mon livre « Amiante et mensonges, notre perpétuité », sous-titré « Journal de Paul et Virginie ».
Alors Paul, c'est votre papa, décédé il y a maintenant 4 ans. Votre papa était né en 1942 à Aulnay-sous-Bois, ville où il a longtemps vécu. Et on peut dire, c'est ce que vous affirmez dans ce récit, qui retrace à la fois le parcours de la maladie de votre père, et vous êtes fille unique, et le parcours qui est le vôtre à ses côtés dans la maladie et les souffrances. Votre père, à Aulnay-sous-Bois, petit garçon, a été contaminé par une entreprise qui émettait des particules d'amiante. C'est de là que, effectivement, commence le drame. Parce que c'est un drame. On sent que c'est quelque chose qui a cassé votre vie.
C'est quelque chose qui nous a fusillés en plein vol. Et effectivement, mon père tombe malade en juin 2014. Le corps médical va mettre 3 mois à nous annoncer un mésothéliome, c'est-à-dire un cancer de la plèvre. La signature du mésothéliome, c'est l'amiante. Il n'y a pas d'autre cause que l'inhalation de fibres d'amiante. Et on va découvrir, 4 mois plus tard, par la presse nationale, par le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, l'existence d'une usine de broyage d'amiante, le comptoir des minéraux et matières premières, qui a officié à Aulnay-sous-Bois de 1938 à 1991. Ma famille en était riveraine. Et on va comprendre l'origine de la contamination familiale, puisque ma grand-mère, déjà en 1978, était décédée d'un cancer de la plèvre. On n'y comprenait rien, pas plus qu'on ne comprenait pour mon père, qui n'avait jamais travaillé cette fibre.
Vous écrivez, et c'est sur la quatrième de couverture de votre livre, dont je rappelle le titre, « Amiante et mensonges, notre perpétuité », donc c'est sous la plume de Virginie Dupérou qui est aujourd'hui devant notre micro, « Nous sommes tombés sur des gens de médecine malhonnêtes, dignes héritiers des membres du comité permanent amiante, nous avons cru en leur probité, Nous avons lutté ensemble. C'est un livre aussi réquisitoire ?
C'est un livre réquisitoire.
Est-ce que vous rendez vos comptes ou est-ce que le livre, parce que je ne l'ai pas lu et je m'en excuse, nous nous rencontrons au Salon du Livre de Saint-André en Morvan, c'est un témoignage sur une situation médicale, familiale terrible qui voit votre papa mourir en 2014 ou est-ce que c'est en 2015, je vous demande pardon, ou est-ce que c'est aussi un livre de combat, d'autant plus que, et là je suis particulièrement admiratif, c'est que Charlie Hebdo a consacré un grand article à votre ouvrage le 16 mai 2018 avec pour titre « L'immense crime social de l'amiante ». C'est un article de Fabrice Nicolino. Alors ce livre, ce n'est pas un livre d'investigation, c'est aussi le récit d'une souffrance ou est-ce que c'est aussi un livre de combat, de lutte à venir peut-être ?
C'est un livre de combat, de lutte. Mon père m'avait dit « si je ne m'en sors pas, il faut que tu aides à faire cesser cet état de non-droit ». Et c'est la manière que j'ai trouvé de dénoncer ce qui est arrivé. C'est un livre aussi de... Oui, qui dénonce... un certain corps médical qui existe toujours. Vous avez parlé de ce que je mentionne en quatrième de couverture, le comité permanent amiante. C'était le lobby des industriels de l'amiante qui comportait évidemment ces fameux industriels, mais aussi des médecins, des chercheurs qui étaient corrompus. Annie Thébaumoni, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface, qui est chercheure en santé publique et sociologue, l'a dénoncé dans un livre qui s'appelle « La science asservie », sous-titré « Les collusions mortifères entre industriels et chercheurs ». Le fait est que le comité permanent amiante a été dissous en 1995, mais comme je dis souvent, familièrement parlant, ces gens-là ont fait des petits. C'est-à-dire que dans le milieu médical, dans beaucoup d'endroits, dans de trop nombreux endroits, partout où je témoigne, je trouve des familles qui me disent ben, « votre histoire, c'est la nôtre ». C'est-à-dire qu'on nous ment sur un protocole de soins qui ne guérit pas. C'est un protocole de chimiothérapie validé en 2006. Les précédents n'étaient pas mieux d'ailleurs, mais ce protocole de soins ne guérit pas. Alors après, on peut me demander pourquoi ces gens vont mentir. Alors, question de conscience, je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. Ce que j'ai pu constater, c'est que bien souvent, des praticiens en milieu hospitalier, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a quand même des gens honnêtes, hein, mais certains praticiens en milieu hospitalier ou en cabinet privé ont été ou sont toujours des personnes qui ont officié aussi en tant que médecin du travail dans des aciéries, à la SNCF ou autre, et qui, d'ailleurs il y en a un exemple dans mon livre, ont fait passer des cancers dus à l'amiante pour des cancers dus au tabac. Ça, c'est récurrent, l'hygiène de vie des ouvriers, parce qu'il faut dire quand même que les victimes de l'amiante, c'est 95% de victimes professionnelles. Bon, bah, ces personnes-là ont fait passer ces cancers dus à l'amiante pour des cancers dus au tabac et puis à l'hygiène de vie d'une manière générale. Et je pense qu'on est tombé sur des personnes comme ça, assez malhonnêtes, qui nous ont menti sur le protocole de soins, sur la rémission, sur le second traitement. En fait, il n'y a rien pour guérir ce cancer. Le pire, c'est qu'il y avait quelque chose à la fin des années 90. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Henri Pezerat.
Alors, qui est Henri Pezerat ? Parce que vous avez parlé de l'association Henri Pezerat, dont Annie Thébaumoni est la présidente. Vous pouvez la définir, cette association, pardon ?
Bien sûr. Alors, Henri Pezerat était le compagnon d'Annie Thébaumoni. Il était chercheur au CNRS, toxicologue, et dès les années 70, il a pris position en faveur des ouvriers pour dénoncer publiquement la toxicité de l'amiante, à une époque où le discours scientifique était contraire. C'est-à-dire qu'on prônait l'usage contrôlé, à savoir dans certaines conditions, ben, l'amiante n'est pas toxique, parce qu'on commençait déjà à savoir que c'était hautement cancérigène, donc le discours avait déjà été modulé en disant « travaillez-le de telle ou telle manière et ça ne vous fera rien ». Henri Pezerat, lui, dénonçait tout ça dès les années 70, il était très minoritaire. Aujourd'hui, il n'est plus là et l'association Henri Pezerat a été créée sous l'impulsion de Fabrice Nicolino, de Charlie Hebdo. Et elle regroupe aujourd'hui cette association des victimes de l'amiante, des pesticides, du nucléaire et de diverses pollutions chimiques.
Je voudrais lire le dernier paragraphe de la préface que Annie Thébaud-Mauny, présidente de l'association Henri Pézerat, a livré en préliminaire à votre témoignage. Puisse ce livre, comme un cri d'alarme, faire comprendre à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous soignent et à ceux qui nous jugent que le cancer ne naît jamais du hasard. Les cancérogènes, quels qu'ils soient, doivent être interdits. Les industriels qui, en pleine connaissance de cause, en maintiennent l'usage, doivent être condamnés comme doivent l'être les médecins qui ne respectent pas leur devoir premier d'assistance et d'accompagnement auprès des victimes, surtout lorsqu'il s'agit d'une des pires atteintes que l'amiante ait été capable de provoquer.
Oui, ce sont des mots qui m'ont touchée énormément. Annie Thébaud-Mauny, à titre personnel, m'a sauvée du naufrage. J'ai rencontré cette sociologue, chercheur en santé publique, 8 mois après le décès de Paul, mon père, en réunion publique donc à Aulnay-sous-Bois, que je découvrais puisque je suis nivernaise et que je ne connaissais pas les lieux. C'est elle qui m'a incité à aller au bout de mon projet d'écriture et à publier. Et puis elle m'a fait ce beau cadeau d'écrire la préface. C'est vrai que ces gens devraient être condamnés, mais en France, les responsables ne sont pas condamnés.
Le sont-ils dans d'autres pays d'Europe ?
Oui, c'est arrivé en Italie. C'est arrivé en Italie en 2013. Le PDG d'Eternit, la plus grosse firme d'amiante en Europe, a été condamné. Mais malheureusement, bon, il y a eu un second procès qui l'a relaxé. Il avait été condamné à verser d'énormes sommes d'argent à toutes ses victimes. Ces gens-là, de toute façon, se comportent exactement comme se sont comportés les nazis après-guerre. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur fortune après l'interdiction de l'amiante. Pour la France, c'était en 1997. Et ils sont allés s'établir en Afrique du Sud, où là, on se refait une virginité. À la limite, on passe pour des écolos et tout va bien. Quant à la France, j'ai rencontré l'année dernière au congrès de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, une ancienne juge du pôle santé publique, Marie-Odile Berthella-Geffroy, qui était en charge du dossier du CMMP comme d'autres dossiers emblématiques du scandale de l'amiante. Elle a été mise à la porte parce qu'elle gênait trop, elle enquêtait un petit peu trop, même beaucoup trop. Et cette juge d'instruction nous a parlé textuellement, je la cite, d'une justice aux ordres, d'où les non-lieux successifs qui tombent depuis septembre 2017, sous le prétexte fallacieux qu'on ne peut pas dater précisément la contamination des victimes. Le résultat, malheureusement, elle-même, c'est la mort.
Virginie Dupérou, dans votre témoignage « Amiante et mensonge, notre perpétuité », il faut dire aussi que c'est un livre à deux voix.
Oui, tout à
fait. Vous pouvez expliquer à nos auditrices et auditeurs ?
Alors, c'est un double témoignage. C'est le témoignage de Paul, mon papa, qui n'est plus là aujourd'hui, et le mien. Mon père prenait des notes sur tout, dans la vie de tous les jours, dans tous les pays où il a travaillé. Il était carreleur, marbrier, mosaïste. Il a voyagé dans le monde entier pour son travail. Il écrivait beaucoup, et il l'a fait pendant sa maladie. J'avais pris moi aussi quelques notes puisque je l'ai accompagné dans ce parcours de souffrance. C'est comme le film de Michael Cimino, c'est vraiment le voyage au bout de l'enfer. Et j'ai décidé, pour mettre les responsables devant leurs actes, que ce soit l'industriel incriminé, puisque la firme existe toujours, que ce soit les médecins qui n'ont pas fait leur travail correctement, de mon point de vue, puisqu'ils nous ont menti et qu'ils nous ont abandonnés. Annie Thébaud-Mauny parle de négligence coupable, hein, d'ailleurs, dans la préface. Ben, j'ai décidé de publier le témoignage écrit de mon père, que j'ai recopié, auquel j'ai ajouté le mien. Je pense qu'ils sont complémentaires tous les deux. On était assez complémentaires dans la vie et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans ce livre.
Et puis ce clin d'œil littéraire, le sous-titre, Journal de Paul et Virginie.
Oui, ça c'est le hasard.
L'histoire d'amour entre fille unique et son papa.
C'est vrai, je pense que c'était pleinement partagé. On avait les mêmes goûts littéraires, musicaux, on avait les mêmes idées politiques. Et ce livre, c'est aussi un clin d'œil à toutes les personnes que mon père aimait, comme Jean Ferrat. Je lui ai emprunté nombre de titres de chansons pour les chapitres. J'ai emprunté aussi des titres à Alexandre Marius Jacob, qui était anarchiste et dont nous avions lu les écrits. Enfin, des personnes qu'on admirait tous les deux. Je me suis inspirée de ces êtres-là.
Et puis beaucoup de références discographiques qui sont mentionnées, effectivement, à la fin de votre texte, hein, Isabelle Aubray, Aznavour, Brassens, Bray, Johnny Clegg, oui. Jean Ferrat, hein, très, très, très présent, et Renaud.
Et Renaud,
Mistral
oui.
Gagnant, Petite Conne, Toujours Debout, et Boris Vian, Le Déserteur. Vous ne désertez pas la cause, en fait, du combat contre l'amiante.
Hein. Non, je la déserterai jamais, cette cause.
C'est votre combat, maintenant, il est vissé en vous
Je vis pour ça. Je vis pour ça, parce qu'il y a eu en plus, depuis, d'autres victimes dans la famille, par le simple fait, je répète, d'avoir été riveraine de cette usine mortifère. Et c'était une toute petite structure. Que penser des riverains, des usines, Eternit, Saint-Gobain, etc. Bon, il y a l'exemple bien connu de Casal Monferrato en Italie, à côté de Turin. C'est le CMMP puissance 1000, c'est-à-dire qu'il y a encore un mort par semaine. Il y a l'usine Eternit de Cerdagnola, près de Barcelone. Il y a le cas d'une autre usine Eternit en Sicile. Enfin, voilà, les cas sont légion et on ne parle plus du tout. Ou presque, une fois par an, on va défiler, on va manifester à Paris. Là, ce sera le 11 octobre. Quelques médias, peut-être, seront là. Mais le scandale de l'amiante, pour beaucoup de personnes, c'est terminé, puisque la fibre a été interdite en France en 1997. Le problème, c'est qu'il en persiste beaucoup dans tous les bâtiments potentiellement construits avant 1997. Il y a quelque chose que je voudrais signaler, d'ailleurs, à ce sujet. C'est la contamination massive des enseignants. Depuis quelques années, il a été recensé plus de 600 mésothéliomes parmi les enseignants à cause de l'amiante présent dans le bâti scolaire, hein, simplement. Hein. Évidemment, chez les élèves, ça n'est pas recensé. Et puis, le temps de latence est tellement long qu'on peut s'attendre à une hécatombe dans les décennies à venir. D'ailleurs, on prévoit, en termes de nombre de décès, quelque chose de plus important encore d'ici à 2050. On n'en est pas sorti de l'amiante, malheureusement.
Virginie Dupérou, à l'instant, à notre micro pour son témoignage intitulé « Amiante et mensonges, notre perpétuité », un livre disponible aux éditions Vérone. On marque une première pause musicale. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi, une émission consacrée aux rencontres des auteurs que nous avons pu faire lors du Salon du Livre de Saint-André en Morvan. Après d'ailleurs la pause musicale que nous allons vous proposer, nous tendrons notre micro à Aude Béliveau, auteur et éditrice de plusieurs ouvrages pour la jeunesse, mais aussi d'un ouvrage absolument remarquable sur lequel nous avons souhaité nous arrêter. Il a pour titre « Dignité noire », un ouvrage paru en avril dernier aux éditions Touche d'encre, un livre illustré par Lucien et qui veut présenter, valoriser les hommes, mais aussi les femmes ayant lutté pour leur liberté, leurs droits, pour la justice et pour la dignité face à des systèmes d'oppression. On se retrouve dans une poignée de minutes. Merci d'être avec nous, c'est Wagon Livre sur Radion.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes aux rivières et fleurirais des sables où fuit même l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerai des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édens, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous l'avons rencontré au Salon du Livre de Saint-André en Morvan qui se tenait dimanche dernier dans la Nièvre. Il s'agit de Aude Béliveau, auteure et éditrice aux éditions Touche d'encre. Elle nous présente Dignité Noire, illustrée par Lucien, 200 pages qui évoquent les femmes et les hommes noirs qui ont lutté contre l'esclavage, l'oppression et autres systèmes racistes. Aude Béliveau explique à notre micro la genèse de Dignité Noire, une aventure éditoriale didactique certes, mais également plus politique.
L'idée c'était aussi de faire un ouvrage et un support pédagogique sur l'histoire de l'esclavage et de ses abolitions autour de la France, de l'Afrique, des Antilles et des États-Unis, et de vraiment montrer comment l'esclavage a été mis en place d'une manière illustrée et vraiment dans un graphisme pédagogique et ludique à la lecture, et aussi de montrer à quel point il y a eu des résistances et des mouvements pour mener à l'abolition de l'esclavage, et ce à travers le monde. L'idée c'était vraiment à la fois de retracer l'histoire de l'esclavage et de montrer à quel point il y a eu des résistances et des révoltes contre ce système-là, et ce d'une manière... Donc c'est un petit ouvrage, un petit album qui est notamment pour les jeunes lecteurs.
Et dont je rappelle le titre, De l'esclavage au Black Power à travers le monde, donc des textes de Aude Béliveau qui est aujourd'hui devant notre micro, et des dessins de Lucien, des dessins soignés, très, très agréables, avec aussi une très jolie mise en page, très claire, ouais. Très rigoureuse, et qui offre un panorama en fait,
oui,
de cette histoire de l'esclavage.
Oui, qui donne un aspect carnet de voyage, documentaire, qui aide à la lecture.
Alors coup de cœur pour un ouvrage aussi de vous, Aude, avec toujours des illustrations de Lucien, et je rappelle, c'est chez Touche d'encre, Dignité Noire. Alors là, vous le dites très clairement, finalement, c'est un livre engagé.
Oui.
C'est une prise de position politique,
oui.
Morale, intellectuelle.
En fait, je pense que c'est ce qui me manquait dans le livre de l'esclavage au Black Power à travers le monde, c'est l'aspect politique et engagement citoyen. Et l'idée, c'était de mettre en avant les luttes des femmes et des hommes noirs à travers le monde pour leur liberté, pour la justice, pour l'égalité, et plus largement contre le racisme et la domination blanche. Et vraiment de mettre au centre de ce livre les personnes concernées par les oppressions et la manière dont elles se sont libérées de ces oppressions et pas dont on les a sauvées forcément.
Alors j'aimerais, Aude, vous inviter à nous parler de celle, c'est une femme, hein, mais pourtant on a dit d'elle que c'était le Moïse du peuple noir. Alors ça nous ramène dans l'histoire américaine au 19e siècle. Je vous laisse le soin de nous livrer le nom de cette héroïne à vos yeux.
Oui, donc juste pour bien dire que dans ce livre-là, j'ai voulu mettre notamment beaucoup de femmes noires à l'honneur parce qu'elles sont souvent invisibilisées dans l'histoire en règle générale. Et là, cette femme, c'est Harriet Tubman, qui est une ancienne esclave qui a libéré des milliers d'esclaves par elle-même, qui ne pouvait pas supporter d'être libre si des femmes et des hommes étaient encore esclaves dans le sud des États-Unis. Et elle a libéré des milliers d'esclaves, et elle a notamment mené un raid pendant la guerre de sécession pour aller libérer des esclaves. Et elle est absolument... héroïque, et elle mérite d'être connue pour son courage.
Alors, vous avez, Aude, beaucoup d'enthousiasme pour les femmes. On reviendra aussi sur des figures masculines qui ne sont absolument pas négligeables.
Pas du tout.
Vous avez un petit coup de cœur pour l'épouse d'un grand écrivain français, hein, auteur du Carnet d'un retour au pays natal, ou aussi qui a pris des positions très fortes contre le colonialisme. C'est Suzanne Césaire, femme du célèbre Aimé Césaire. Alors elle était un peu dans l'ombre, et pourtant vous apportez un éclairage, une mise en valeur de cette femme.
Parce que comme souvent dans l'histoire, une femme d'eux va être aussi invisibilisée face à son mari, alors que j'invite vraiment tout le monde à lire les textes de Suzanne Césaire. Elle était très proche des surréalistes, elle a fait des textes absolument incroyables, et elle a aussi créé avec donc son mari Aimé Césaire la revue Tropique, qui a été quand même une revue de résistance face à l'occupation face à l'occupation allemande et face aussi au pétainisme dans les années 40. Et ça a été la revue Tropique qui a été absolument incroyable. Et Suzanne Césaire, notamment, a pris position
contre la censure de cette revue, contre la France que proposait le maréchal Pétain notamment. Et en fait, c'est à la fois une très grande autrice, vraiment créatrice, et aussi une très grande militante et qui mérite d'être connue.
Petite vague musicale dans votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, consacré aujourd'hui aux quelques auteurs que nous avons pu rencontrer lors du Salon du Livre de Saint-André en Morvan, c'était dimanche dernier. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans une poignée de minutes.
Est un peu désaxé, mais somnambule, funambule, je vais marcher. J'envoie des DM à la fille que j'étais. Je remonte le fil de mes pensées. Ce que j'ai vécu, l'ai-je mérité? Si c'est un jeu de rôle, avais-je les épaules? Allez allumer une bougie à mes abonnés. Et je coule, 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 coule. Ouais, je coule, 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 coule. Et je coule, 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 coule.
Je cherche à me refaire un nom.
Mais que les nuits sont longues sur le bord du monde. Au pied des podiums et des panthéons, pris dans les lois de l'attraction.
Mon anonyme cherche à se refaire un nom.
Depuis les branches qui cassent, les cordes qui lâchent, j'irai prendre ma part de la part du lion.
Un cœur net est un cœur brisé. Un cœur brisé est un cœur libre. Mais somnambule, funambule, j'avacis. J'essaie de ne pas tomber amoureux de ma psy. Les jeunes pousses deviennent des colonies. Une ville a poussé en une nuit. Alors on verse de l'or liquide sur des statues de cire. Allez allumer une bougie à mon bon souvenir.
Et je coule, 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 coule. Ouais, je coule, 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 coule.
Je me refaire un nom.
Mais que les nuits sont longues sur le bord du monde. Au pied des podiums et des panthéons, pris dans les lois de l'attraction.
Mon anonyme cherche à se refaire un nom.
Depuis les branches qui cassent, les cordes qui lâchent, j'irai prendre ma part de la part du lion.
Je me sens comme une balle perdue, comme le tapage nocturne. Le dernier verre avant la cure, la dernière goutte avant la crue. Et je perce les yeux, mais je ne suis pas un lâche. C'est seulement pour éviter de remarcher dans les flaques. Je rédige la liste sans rature des distorsions de la nature. Je suis libre, mais je fais toujours le mur. La vie est brutale, pourtant je fais le plus dur.
Selon les lois de l'attraction, mal oméga, je cherche à me refaire un nom. Mais que les nuits sont longues sur les rebords du monde. Au pied des podiums et des panthéons,
pris dans les lois de l'attraction. Mon anonyme cherche à se refaire un nom. Depuis les branches qui cassent, les cordes qui lâchent,
j'irai prendre ma part de la part du lion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons Aude Béliveau, auteur et éditrice aux éditions Touche d'encre, notamment de Dignité Noire, dont il a été question juste avant la pause musicale que nous vous avons proposée. C'est un ouvrage qui, en fait, nous présente des femmes et des hommes qui ont lutté contre l'esclavage, l'oppression ou autres systèmes racistes. Et j'ai demandé à Aude Béliveau de revenir sur un personnage qui a joué un rôle important dans l'histoire des droits des Noirs, notamment à la tête d'un soulèvement à Saint-Domingue au début du XIXe siècle. Il s'agit du général Toussaint Louverture.
Toussaint Louverture, il était donc du coup un général noir à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti quelques années plus tard. Et il a lutté et il a mené les troupes pour pouvoir mener à l'abolition de l'esclavage. Et à la première abolition de l'esclavage en France, du coup sur le territoire de Saint-Domingue. Et ça a été, il a été face aux armées napoléoniennes ensuite qui ont voulu rétablir, qui ont rétabli d'ailleurs l'esclavage au début 1800. Et d'ailleurs, il a été arrêté par ses armées napoléoniennes et enfermé dans le Doubs exactement. Et lui, il a eu le courage de mener les troupes pour abolir l'esclavage au moment même où dans les autres territoires français, l'esclavage n'était pas aboli. Et c'est grâce à lui et aussi à des femmes et à des hommes qui ont combattu que l'esclavage a été aboli pour la première fois à Saint-Domingue, qui deviendra ensuite Haïti, la première république noire du monde.
Arrêtons-nous, rendons-nous en Afrique du Sud. Les plus jeunes ont sans doute oublié ou ne savent pas ce qu'est l'apartheid. Mmh. Ça a été aussi un très très long combat dans ce pays à l'extrême sud de ce grand continent africain, l'Afrique du Sud. Et vous êtes aussi très attaché à Winnie Mandela, l'épouse de Nelson Mandela.
Donc encore une fois, une épouse qui a été... là aussi invisibilisé, mais je pense réellement, volontairement, j'ai envie de dire, parce qu'elle était très radicale politiquement, bien plus radicale que Nelson Mandela, qui avait cette diplomatie qui lui a permis d'être le premier président noir d'Afrique du Sud, et qu'on ne peut absolument pas lui enlever ça. Mais elle a, par exemple, quand tous les dirigeants anti-apartheid étaient en prison, c'est Winnie Mandela qui portait le combat anti-apartheid, qui vraiment était la présidente et la porte-parole, disons, de l'ANC, pour lequel avait été enfermé Nelson Mandela. Et elle était face aux médias, elle osait parler quand même de la lutte anti-apartheid, qui était pourtant interdite par le gouvernement, et toutes les organisations étaient interdites, et elle a eu un courage fou. Et elle est morte il y a quelques années. Et là aussi, j'invite à l'écouter. Il y a eu des documentaires faits sur elle. Et vraiment, ils sont... on voit que c'est une personne importante, très engagée, très militante, et qui mérite d'être connue pour son combat.
Alors, citons aussi des grandes figures sur lesquelles vous pouvez vous arrêter, Aude Béliveau. Patrice Lumumba.
Alors... Oui, qui a été un grand militant anticolonial au Congo. Et qui l'a payé de sa vie, parce qu'il a été, une fois que le Congo devient indépendant, il a dénoncé qu'il y ait encore une dépendance de ce pays face à l'ancienne puissance belge coloniale, et il a été tué dans d'atroces conditions. Mais là aussi... ces mots ont encore une importance aujourd'hui sur l'indépendance que les peuples africains doivent avoir, sur l'unité africaine qui peut mener le continent à être un grand continent, et les peuples africains à être enfin le grand peuple qui mérite. Et là aussi, ces textes sont essentiels, et notamment son discours du 30 juin 1960, qui est un discours très courageux face aux autorités belges qui viennent de concéder l'indépendance, mais qui ont face à elles un Patrice Lumumba très engagé.
Alors, il y a aussi des figures incontournables quand on parle de lutte pour les droits civiques ou de lutte contre ségrégation ou le racisme, notamment aux États-Unis. Il y a les figures de Malcolm X, et puis bien sûr Martin Luther King. Mmh.
Qui sont souvent opposés, mais qui avaient le même but. En fait, on croit qu'il y a un méchant violent qui est Malcolm X et un très gentil pacifique qui est Martin Luther King, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et les deux voulaient la liberté pour les peuples afro-américains. Et là où Malcolm X n'appelait pas à la violence, mais à l'autodéfense, et Martin Luther King était aussi très radical politiquement, plus que ce qu'on le croit, contre la pauvreté, contre le racisme, etc., même contre la guerre du Vietnam. Il se retrouvait les deux, finalement, dans cette lutte contre le racisme aux États-Unis.
Et ils finissent de la même manière assassinés.
Exactement. En fait. Et en fait, ils subissent la même répression contre des figures noires qui osent porter un combat qui n'est pas forcément accepté à l'époque.
Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pourrez la retrouver dans son intégralité sur le site d'archives de Wagon Livre via Internet. Il suffit de pianoter www.yannickpetit.fr. Vous y retrouverez également les titres et les noms des auteurs que vous avez pu entendre aujourd'hui dans votre émission. On se retrouve dans une poignée de minutes, le temps pour nous de vous offrir une petite pause musicale.
La paix qu'on a, la paix félie qu'on a.
Hassim Bonanga,
Hassim Bonanga, Mandela Tina. La paix qu'on a, la paix félie qu'on a.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
Retrouvons Aude Béliveau qui signe avec son illustrateur Lucien un remarquable ouvrage intitulé « Dignité noire » aux éditions Touche d'encre. À notre micro, puisque nous l'avons rencontré lors du Salon du Livre de Saint-André en Morvan dimanche dernier, je l'ai invité à évoquer les Black Panthers. Aude Béliveau.
Donc les Black Panthers, du coup, c'est vraiment donc le mouvement du Black Panther Party qui a été fondé en 1966 à Oakland et qui défend l'autodéfense des Afro-Américains face aux injustices qu'ils subissent, que ce soit les brutalités policières, les injustices de classe, le fait qu'ils souhaitaient aussi instruire les Afro-Américains sur leur propre histoire, sur l'histoire de la décolonisation, sur l'histoire de l'esclavage sans omettre aucune injustice. Et vraiment l'idée c'était un mouvement très radical qui est là aussi souvent vu comme un mouvement violent, alors que c'était surtout l'autodéfense d'une population opprimée.
Un mot sur une femme française, Assa Traoré.
Justement, pour moi c'est dans la dernière partie qui est consacrée aux luttes contre le racisme structurel actuel. Je pense qu'Assa Traoré est l'une des figures les plus importantes en France et à travers le monde. Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama Traoré, c'est un jeune homme noir qui est mort à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet 2016 dans le cadre d'un contrôle de police. Et Assa Traoré, sa sœur, se bat actuellement pour que la vérité soit rendue sur cette affaire et que justice soit faite pour son frère qui depuis trois ans c'est l'une des femmes les plus noires, les plus courageuses et l'une des femmes les plus courageuses en France qui mène le combat contre le racisme structurel, contre les violences policières à l'encontre des personnes racisées en France et elle est absolument honorable. Et justement, il y a 15% des bénéfices de ce livre qui sont reversés au comité pour Adama. Parce que je pense que ce livre n'a pas juste vocation à être un livre d'histoire. Il doit s'implanter dans la société et dans les luttes actuelles.
Et puis, vous nous offrez des conseils cinématographiques, hein, des films, des conseils de lecture. Et je trouve ça assez remarquable. C'est un beau travail. C'est un ouvrage qui a dû demander du temps et puis peut-être aussi un esprit de synthèse parce que vous auriez pu faire une somme gigantesque, forcément.
Ça représentait 5 ans de travail et pas juste 5 ans d'écriture ou de recherche, c'est aussi 5 ans de choix. De quoi je voulais parler, de qui je voulais parler, comment je voulais l'aborder, comment je voulais mettre les liens entre les différentes luttes qui inévitablement se répondent entre elles à travers le monde et à travers les siècles. Et les choix ont presque pris autant de temps que l'écriture du texte et les recherches. Ça a été, et justement, en effet, j'ai voulu mettre au fil des pages de la musique, des idées de musique, des idées de films qui sont une sorte de bande-son et de bande-vidéo de ce livre, parce que pour moi c'est très important d'allier les autres formes de création artistique aux luttes.
Si vous souhaitez approfondir les thèmes abordés dans ce reportage et découvrir des femmes et des hommes noirs qui ont aux quatre coins du monde lutté contre l'esclavage, l'oppression ou d'autres systèmes racistes, eh bien sans tarder, plongez-vous dans Dignité Noire, texte de Aude Béliveau que vous avez pu entendre dans notre émission, un ouvrage illustré par Lucien et c'est aux éditions Touche d'encre. Vous retrouvez les références des ouvrages et les noms des auteurs sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre. Il suffit d'aller sur internet et de pianoter yannickpetit.fr. Dernière pause musicale de notre émission et on se retrouve dans une poignée de minutes avec deux auteurs de bande dessinée, Jean-Charles Gibault et Ilker Kaliskan. Bonne fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux et jusque-là ils courent. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles et jusque-là elles tracent. Je suis de l'eau et je dérive. L'homme est de trop, je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop, je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux, je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses soufflé des feux de brouget, planté des comètes. Et jusque-là, elle pousse. J'ai donné aux rivières le chemin de la mer. J'ai détourné le cou. Et jusque-là, j'espère. Je suis de l'eau et je dérive. L'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive. L'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Charles Gibault, Ilker Caliscan, bonjour.
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 Merci à vous deux d'être devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Ilker Caliscan est dessinateur, tandis que Jean-Charles Gibault a, disons, collaboré au texte des deux bandes dessinées que vous présentez au Salon du Livre de Saint-André en Morvan, deux tomes. Alors, la bande dessinée a pour titre Vindicta, l'ai-je bien dit ?
Tout à fait, mais en latin, je crois que ça se dit.
Vindicta,
voilà,
je pense.
Voilà, c'est ça, Vindicta.
Dans un premier temps, et je vais demander à Ilker de commencer, est-ce que l'un et l'autre peut se présenter ? Alors, Ilker Caliscan.
Alors bonjour, je m'appelle Ilker Caliscan, je suis dessinateur de bande dessinée, mais également professeur d'anglais dans un collège. Mon parcours, je l'ai commencé justement en bande dessinée à l'école. Avec Jean-Charles, on a créé un club bande dessinée pour les élèves, et puis on s'est pris au jeu, puis au fil du temps, ça nous a créé deux bandes dessinées, et il y a la suite qui vient bientôt.
Alors, dessinateur amateur, mais de grande qualité.
Je vous remercie.
Parce que lorsque l'on ouvre la bande dessinée et que l'on découvre le graphisme, puisque ça se passe dans l'Antiquité romaine, on est impressionné par la reconstitution des détails de la culture et de la civilisation antique, d'une part, d'autre part, par le dynamisme, les scènes de combat guerrières, c'est totalement admirable. Donc, quand je dis amateur, ce n'est absolument pas... péjoratif, non, mais beaucoup sûr. De talent. Et comment, d'où vient ce don ?
Ben en fait, c'est déjà, j'ai toujours dessiné, aussi loin que je me souvienne. J'ai commencé peut-être à l'âge de 3-4 ans et j'ai jamais cessé de dessiner. Et j'ai toujours voulu raconter des histoires un peu fantasmées. J'ai jamais arrêté. Donc, puis par contre, pour revenir à un parcours plus professionnel, ça arrivait récemment. En fait. J'ai décidé d'un coup de mettre la vitesse supérieure et puis laisser une trace un petit peu de tous ces dessins.
Ilker Caliscan, merci pour cette présentation. Autour de Jean-Charles Gibault. Alors Jean-Charles, autre parcours peut-être, atypique aussi ?
Pas spécialement. En fait, ça a démarré dans l'enseignement puisque je suis le collègue d'Ilker au Collège des Chaumes à Avallon. Et suite à la mise en place d'un club bande dessinée, on s'est rencontrés autour de cette passion et... la volonté de créer un album historique s'est développée et on a eu la chance aussi de rencontrer au Muséo Parc d'Alésia le directeur Michel Rouget qui nous a fait confiance et de ce partenariat est né le premier tome autour de la bataille d'Alésia et la trilogie, puisqu'il s'agit d'une trilogie, se terminera, on espère, l'an prochain avec l'album numéro 3.
Alors, comment respecter l'histoire en bande dessinée ? Est-ce que vous avez trahi l'histoire ou est-ce que vous vous êtes imposé les contraintes culturelles, linguistiques peut-être parfois ? Parce qu'on ne peut pas mettre dans la bouche de combattants romains de 52 avant Jésus-Christ le même langage qui pourrait être le nôtre dans la vie quotidienne.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai qu'il faut respecter le plus possible... les contraintes historiques entre guillemets pour avoir un rendu qui colle entre guillemets le plus possible à la réalité. On s'appuie beaucoup sur l'archéologie, sur j'ai parlé du partenariat avec le Muséoparc aussi qui nous a aidés, les travaux d'archéologues, les plus récents et on essaie de respecter au mieux. Alors, l'intérêt de la bande dessinée aussi, c'est qu'on peut faire passer des émotions à travers les images, à travers le texte aussi. Et on a respecté aussi les personnages réels de cette époque qui apparaissent, comme Jules César, version Lettorix, bien sûr. Mais on a des personnages de fiction aussi qui nous permettent un petit peu de s'évader parfois, par moment, de ce côté un petit peu respectueux d'intégralité de l'histoire et de l'époque.
Alors les historiens ou les collègues d'histoire au Collège des Chaumes à Avallon et peut-être d'autres enseignants aux quatre coins de France ou dans l'espace francophone, comment les historiens pointus, méticuleux appréhendent-ils vos deux tomes? Donc je rappelle Windicta, le tome 1, Vae Victis, hein, malheur au vaincu bien sûr, et le tome 2, le vol noir du corbeau.
Les historiens que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, ils nous ont toujours félicités. Je pense que ça leur plaît quand même. Puis, ils nous ont même remercié certains d'entre eux pour avoir fait revivre certaines choses. Voilà, pour l'instant, on n'a que des retours positifs. On espère avoir toutes sortes de retours constructifs. Pour l'instant, c'est...
Alors pourquoi ce choix aussi de l'Antiquité romaine? C'est une période historique commune ou c'est celle qui permet aussi, quand on est deux dessinateurs masculins, de faire revivre un monde martial, un monde guerrier. Où aller chercher cette inspiration et comment vous l'expliquez et pourquoi cette période surtout?
Alors c'est sûr que c'est une période, alors pour la période, moi, c'était surtout justement l'idée des combats, etc. J'ai toujours aimé, par rapport à la dynamique que vous aviez citée du dessin, c'est toujours pour moi plus intéressant de dessiner des scènes de combat où les corps vont dans tous les sens. Donc j'ai toujours aimé...
Oui, il y a des doigts tranchés, têtes coupées. c'est la guerre, quoi. C'est absolument la brutalité guerrière des Romains, ouais, de toute époque d'ailleurs.
Exactement. Oui. Donc, il y avait du sang malheureusement, des hémoglobines partout. Donc voilà, ça allait bien avec ce que j'aimais faire. Et puis par contre pour l'Antiquité, c'est vraiment un choix qui est venu de Jean-Charles un petit peu aussi. Et puis, suite au club BD, justement.
Alors, Jean-Charles Gibault, votre approche de cette époque antique.
Moi, il y a plusieurs choix possibles. D'abord, c'est s'inscrire dans le patrimoine régional, puisque, effectivement, on s'intéresse à Alésia, qui fait partie intégrante de l'histoire de la région. Et c'est quand même une bataille qui a une résonance encore aujourd'hui. C'est vraiment qui marque un... qui a un marquage important pour l'histoire de notre pays et de la région. Donc c'était déjà à s'inscrire par rapport à ce patrimoine régional et aussi...
Contester, parce que le site d'Alésia, voilà, il y a controverse. Est-ce que Alésia est bien en Bourgogne, non loin de Vénarey-lès-Lôme, dans ce département
continue,
de la Côte d'Or?
La guerre se poursuit à ce niveau-là, mais c'est vrai que d'ailleurs le public souvent nous interroge. C'est l'une des questions qui revient essentiellement. Où se trouve Alésia? Alors modestement... On fait part de nos connaissances, mais de notre point de vue. Mais on ne sommes pas archéologues professionnels. Donc, mais c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent.
Alors, vous prenez des risques, finalement, tous les deux, en n'étant pas enseignant et historien. Il faut être crédible. Vous avez vraiment veillé à respecter l'authenticité historique. C'était une ligne morale et graphique continue dans votre création?
Alors effectivement, on a vraiment veillé à respecter le plus possible tout ce patrimoine historique. On a d'ailleurs, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais on a travaillé en collaboration avec des archéologues du Musée au Parc et avec des conseillers historiques du musée qui ont relu consciencieusement la bande dessinée et qui n'auraient pas validé effectivement la publication si nous n'avions pas respecté le plus possible, parce qu'on essaie de tendre au maximum, mais il faut, voilà, à travers ne serait-ce que les vêtements, une maison gauloise. C'est d'ailleurs aussi, on parle beaucoup des Romains, mais on voulait aussi revenir sur cette civilisation gauloise qui est un petit peu méconnue. Il n'y a pas de source écrite gauloise, donc c'est vrai que ça nous tenait à cœur aussi de faire revivre ces Celtes qui... par Astérix, revivent beaucoup par ce personnage intéressant, mais qui sont aussi, malgré tout, trop méconnus à notre goût.
Et les contraintes, le respect de l'histoire, des normes culturelles, de l'Antiquité, c'est une contrainte beaucoup plus forte pour le dessinateur ou pour celui qui est en charge du texte de faire vivre l'image et de la commenter? Pour qui est-ce le plus difficile?
Alors déjà, je voudrais dire qu'avant la sortie du premier tome, on a eu une longue période de recherche de la précision. Et malgré ça, moi qui aime bien inventer des costumes, créer un petit peu, j'ai été amené à revoir un tout petit peu certaines choses. Mettre un petit peu par-ci par-là un petit frein à l'imagination, justement par rapport à tous ces petits détails qui font que les costumes n'étaient pas forcément comme ceux que j'imaginais. Et c'est très bien, justement, parce que ça nous a permis, enfin, moi personnellement, de me cultiver un peu plus aussi.
Et puis, je vois notamment dans le tome 2, hein, le vol noir du corbeau.
Oui.
C'est amusant, parce que je pense au chant des partisans, amis, entends-tu, le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Il y a des scènes absolument formidables dans les arènes, hein, où l'on voit effectivement les gladiateurs, cette cruauté des jeux du cirque, que le cinéma américain a parfois d'ailleurs beaucoup trahi dans les péplums des années 50, qui faisait la richesse d'Hollywood et des stars d'Hollywood. Voilà, vous avez mis de côté tout ce qui était cinéma, parce que souvent, lorsque les Américains essaient d'adapter l'histoire de France au cinéma ou l'histoire européenne, l'Antiquité, c'est parfois un peu désastreux, que ce soit Jeanne d'Arc ou d'autres épisodes.
Tout à fait. Ne serait-ce que, par exemple, pour les outils qu'ils utilisaient, il y avait des petites erreurs. Il y a des erreurs au cinéma par rapport à la taille des épées, par exemple. Ce sont des armes beaucoup plus courtes qu'on imaginait, et puis il n'y avait peut-être pas autant de sang qu'on l'imagine aussi.
Oui, alors justement, moi qui est professeur d'histoire aussi au collège, c'est vrai que les élèves pensent tout de suite à Gladiator, hein. Je parle le film vraiment le plus récent qui traite de ce sujet-là, et c'est vrai que ça donne une image particulière des gladiateurs, alors aussi qu'on a voulu réhabiliter, puisque les combats sont, pour le coup, sous la période républicaine, rarement mortels, finalement, puisque un gladiateur est un investissement, hein, qui, comme aujourd'hui, on pourrait comparer aux grandes stars, certains sont vraiment des stars, et il faut évidemment les maintenir le plus longtemps possible dans l'arène. Donc voilà, on a voulu retracer aussi ce caractère un petit peu des gladiateurs, un petit peu vu par les films et vu de manière un petit peu fantasmée. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est astreint à respecter, notamment dans les costumes, les armes, et en annexe de la bande dessinée, on a représenté justement les gladiateurs avec leur costume entre guillemets de scène, puisque ce sont vraiment des jeux. Et encore une fois, le caractère mortel n'apparaît que très rarement, finalement.
Donc finalement, la bande dessinée vient au secours de l'enseignement de l'histoire plus que le cinéma, et notamment le cinéma américain, effets spéciaux, qui détournent et trahissent souvent les vérités historiques.
C'est ce qu'on aimerait, effectivement, régler justement certaines choses. Enfin, c'est vrai qu'Hollywood fantasme beaucoup, ne serait-ce que pour les décors aussi.
Alors, y a-t-il un peu d'érotisme? Oui, je vois quelques scènes, effectivement, où les bacchanales, un peu, quelques femmes qui sont là sur les genoux des guerriers pour les réconforter. Donc le troisième tome, vraisemblablement en 2020. L'Éducation nationale, vos inspecteurs d'académie, les IPR, sont-ils intéressés par votre activité extrascolaire, en fait?
Je suis très content que vous me posiez la question, parce que justement, j'ai rencontré mon IPR il n'y a pas si longtemps. J'ai proposé...
Donc, inspecteur pédagogique régional,
tout
hein, IPR.
Voilà. Tout à fait, en anglais, parce que je suis professeur d'anglais. Et donc, je lui ai aussi proposé de travailler dans ce sens-là, au sein de l'Éducation nationale, et puis nous attendons encore la réponse.
Jean-Charles?
Alors effectivement, c'est une bonne question. Nous avons été contactés par de nombreux établissements, que ce soit du secteur primaire ou secondaire, pour justement intervenir en milieu scolaire, en dehors de nos heures évidemment de cours, pour développer l'atelier bande dessinée que nous avions initialement créé, pour travailler autour de l'image, puisque la société actuelle, les jeunes d'aujourd'hui sont très tournés vers l'image. La bande dessinée permet d'associer le texte à l'image. C'est vraiment un vecteur important pour nous pour faire passer les idées, passer le caractère historique aussi, mais d'une manière générale, la culture en elle-même. Et c'est vrai que nous aimerions développer cela. Alors, si le rectorat nous entend, si des
ou
personnes...
d'autres, le rectorat de Dijon ou d'autres.
Ou d'autres, hein, évidemment. Nous serions ravis de vraiment développer un partenariat avec les écoles, avec les collèges. Ce serait un plaisir pour nous de faire partager encore plus l'histoire.
À l'instant, un autre micro enregistré au Salon du Livre de Saint-André en Morvan, c'était Jean-Charles Gibault et Ilker Caliscan qui signent Windicta, une bande dessinée dont les deux premiers tomes sont disponibles en librairie ou en commande sur le site de Yil Édition, Yil. Les deux tomes ont pour titre Vae Victis et Le vol noir des Corbeau. Vous retrouvez les titres, les noms des écrivains et des personnes interviewées dans cette émission sur notre site www.yannickpetit.fr. Samedi prochain, toujours à 11h sur Radion, deuxième partie du compte-rendu du Salon du Livre de Saint-André-en-Morvan, avec des reportages qui donneront la parole à la spécialiste des nourrices du Morvan, Noël Renaud, qui signe un dernier ouvrage disponible aux éditions Sutton. Mais nous avons aussi pris des nouvelles de Sandra Amani, qui évoquera ses prochaines publications. Et nous avons rencontré Dominique Vallet, qui est auteur de BD, mais aussi auteur de textes. Et surtout, nous aurons l'opportunité avec lui de parler de cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle « Temps impossible ». Et puis nous tendrons aussi notre micro à Marie-Gilles, qui est devenue morvandelle, nivernaise, mais qui a vécu en Algérie. Elle évoquera notamment un texte hommage à sa mère, née en Algérie. Et puis, elle évoquera aussi pour nous un roman qui raconte une histoire d'amour entre deux jeunes gens que les événements d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie vont séparer. Si vous le voulez bien, ce sera samedi prochain, 5 octobre à 11h, toujours sur Radion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.